Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On va continuer à débattre et moi j'adore ça, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Et lui aussi, il adore débattre, bien sûr. Bonjour à tous, c'est Laure Closier. Moi aussi, j'adore débattre. Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC. Le patron d'Amazon quitte son poste aujourd'hui. Il passe la main, son entreprise a révolutionné le monde. Ça, c'est sûr, mais est-ce que c'est en bien ou en mal? C'est notre question jusqu'à 14h.
Oui, et puis à partir de 14h, on va parler des vacances. Ça y est, elles ont commencé pour plein de gens. Mais alors, pendant ces vacances d'été, vous allez vous comporter comment? Avec prudence ou avec insouciance?
Avantage au juillet.
Ça c'est une vraie question. Est-ce que avec tout ce qu'on nous dit sur la reprise d'une épidémie fin juillet, le variant Delta, prudent ou insouciant? Va falloir choisir votre camp. On vous attend au 32-16.
À 13h50, c'est bon à savoir. De l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa Marie, aujourd'hui?
Je vais vous donner des nouvelles de l'œuvre invisible qui s'était vendue aux enchères 15 000 euros le mois dernier. Je vous en avais parlé, ça vous avait fait réagir. Eh bien, il y a eu un rebondissement dans cette improbable affaire qui n'est pas encore terminée. Je te dirai tout à l'heure, Emmanuel.
Mais c'était déjà totalement absurde.
Eh bien, oui, mais figure-toi.
C'était absurde il y a deux mois, mais ça l'est toujours.
Encore plus loin.
J'attends de voir.
Ah ouais.
Mais avant, on va parler de Jeff Bezos. Il s'en va. L'emblématique patron d'Amazon passe la main à Andy Jassy. L'homme d'affaires conservera un rôle clé dans l'entreprise qu'il a fondée il y a 27 ans en restant président exécutif de son conseil d'administration. Mais c'est quand même une page qui se tourne. La fortune de son entreprise a fait aussi la sienne. Même après avoir cédé à son ex-femme une partie de ses parts dans Amazon après son divorce, Jeff Bezos vaut actuellement 200 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Alors Jeff Bezos, on l'aime ou on le déteste, mais il a changé la manière dont on consomme à travers le monde. Obsédé par le client, il en a fait l'emblème de sa réussite, réinventant totalement la manière de travailler dans ses entrepôts comme dans ses sièges. La méthode Bezos, ça s'apprend désormais dans les écoles. Alors Amazon a révolutionné le monde, mais en bien ou en mal? Emmanuel, bon, je pense que vous voyez à peu près qui pense quoi dans cette émission avant de commencer. Emmanuel, toi c'est en bien?
D'abord, il y a un juge de paix avant de dire c'est en bien ou c'est en mal. La réalité, c'est que vous avez, alors prenons l'exemple de la France, 70% des Françaises et des Français qui désormais font leur achat sur Internet. Donc, dès l'instant où vous avez quelqu'un qui propose un service qui rencontre une telle adhésion, c'est bien que le client qui est roi, y trouve un intérêt. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est que ça correspond à un besoin. Après, on peut toujours, comme Laurent, dans son économie Belle des Champs, vouloir que rien ne change. C'est exactement faire comme faisait, il y a une célèbre fable de Frédéric Bastiat, l'économiste, la fable des moucheurs de chandelles, c'est-à-dire que les gens qui demandent au roi, pour continuer à vendre des chandelles, qu'on ferme les volets dans la journée pour pouvoir vendre des chandelles et ne pas utiliser la lumière du soleil. C'est pareil, vous ne pouvez pas aller contre le progrès technologique. C'est l'histoire du capitalisme, des vagues d'innovation successives. Alors oui, ça chamboule la donne. Oui, ça détruit des activités anciennes. Oui, Amazon, on va pas le nier, Amazon a détruit des emplois dans les petits commerces, mais il en a créé énormément d'autres. Non seulement chez lui, mais il a permis de développer tout un tas de business. Et l'histoire du monde et l'histoire des innovations technologiques, c'est beaucoup d'emplois détruits, mais toujours au final, plus d'emplois créés que les emplois détruits dans d'autres secteurs. Donc oui, vive Amazon!
Laurent, tu peux y aller, tu peux dire du mal.
Non. D'abord, tu as dit on l'aime ou on le déteste, Jeff Bezos. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, je le déteste pas.
Si tu le connaissais comme moi, tu l'adorerais.
Tu le connais pas.
Très bien, Jeff Bezos.
C'est vrai?
Personnellement.
Tu as dîné avec lui récemment.
N'importe quoi. Tu l'aimes sans le connaître.
Tout ce
d'ailleurs.
Que tu as dit est vrai. Il y a un besoin. Il répond à ce besoin et si je dis pas de bêtises, les clients sont plutôt contents de service.
Oui, c'est pour ça que ça marche.
Mais il n'y a pas que du bien. Il y a aussi beaucoup de mal. Alors tu l'as dit, ça détruit des emplois. Un emploi créé, deux emplois détruits, tout le monde est à peu près d'accord.
Mais n'importe quoi, cette statistique ne veut rien dire.
Justement. Alors très bien, comme je savais que tu me dirais ça, dernière étude en date aux États-Unis, sur les 15 dernières années, 178 000 emplois créés dans le e-commerce, 478 000 emplois détruits dans la grande distribution.
Oui, mais c'est là où tu peux faire l'erreur, Laurent.
Attends, c'est pas 1 sur 2, c'est carrément 1 sur 3. Et comme tu vas me laisser aller jusqu'au bout et que tu vas pas contester chacun de mes arguments, tu pourras contester tout en bloc.
D'accord. Okay.
Alors très bien. D'autre part, tu l'as dit toi-même, ça détruit des commerces de proximité. C'est pas seulement des emplois détruits ou des commerces détruits. C'est aussi un mode de vie qui change. Et pardon, ce mode de vie, on ne le retrouvera pas en l'occurrence.
Mais il est plébiscité ce nouveau mode de vie par les consommateurs.
Ça affaiblit le monde de l'édition. Ça, c'est incontestable. Ça bouleverse totalement le monde de la culture. Ça a fragilisé l'économie du cinéma, l'économie de la télé et maintenant d'ailleurs l'économie du sport aussi. C'était inattendu. Mais c'est en train de venir. Et puis ça aggrave le dérèglement climatique. Et alors là, j'ai été le premier surpris. C'est pas moi qui le dis. Tu sais qui le dit ? Jeff Bezos. Lui-même, il a reconnu qu'une année de fonctionnement d'Amazon, ça produit 51 millions de tonnes de CO2. C'est-à-dire autant que la Suède, un État entier.
Même ses erreurs, Jeff.
Ce qui me rend vraiment malade, et là on est vraiment sur qu'est-ce que Amazon a fait en mal, c'est que le Godzilla du e-commerce, là, il paye pas d'impôts. Tu as dit qu'il pesait 200 milliards. Tu sais combien tu sais quel est le bénéfice net d'Amazon l'année dernière ? 21 milliards de dollars. C'est colossal. C'est une réussite exceptionnelle. Il paye pas ou peu d'impôts. Donc il ne participe pas.
Mais Emmanuel, il va être d'accord.
À l'effort collectif. Donc il n'y a pas que du bien. Moi, je suis très content que Bezos gagne beaucoup d'argent.
Mais que le fait que Amazon ne paye pas d'impôts, c'est de la faute des États.
Je pense qu'il se débrouille très bien, puisqu'il fait jouer la concurrence entre les États.
Alors, vas-y, Emmanuel.
Alors d'abord, première critique sur tes chiffres sur l'emploi.
Attends, j'en ai d'autres. Hein.
Tu te contentes de rester dans la sphère du commerce. Et c'est bien là ton problème. C'est-à-dire que tu compares les emplois créés dans le e-commerce avec les emplois détruits dans la distribution et dans les petits magasins. Mais la réalité, c'est que l'impact d'Amazon, il va bien au-delà de ça. Il irrigue toute l'économie américaine. Il irrigue tous les secteurs. Tous les secteurs profitent d'Amazon. Et c'est ça, la technologie, etc. Donc si tu veux, l'impact net d'Amazon sur les créations d'emplois, tous les services qu'offre Amazon et qui permettent à des entreprises de se créer, ça c'est positif. Ton impact environnemental.
Attends, je te réponds juste à l'argument que tu viens de donner, d'accord ? Juste à cet argument-là. Tu peux pas faire abstraction du fait que, un, l'État français a assigné Amazon pour pratiques abusives à l'égard de ses fournisseurs. Deux, que la Commission européenne a lancé deux enquêtes pour soupçons d'abus de position dominante.
Mais ça, c'est autre chose. Ça n'est pas du tout réponse.
Ils font tellement de bien au reste de l'économie qu'il y a des enquêtes à répétition sur leur mode de fonctionnement.
Laurent, avoir un impact positif sur l'économie, ça ne veut pas dire que tu es un ange, que tu es un bienfaiteur de l'humanité.
Tu expliques que c'est l'ange tombé sur Terre.
Non, je te dis que l'impact d'Amazon sur l'économie mondiale est positif. Quand tu parles de l'économie culturelle, mais alors là, tu te fous du monde. Dans un pays dans lequel un tiers des librairies sont uniquement concentrées en Île-de-France, par exemple, comment tu as accès aux livres, comment tu as accès à la culture ? Tu trouves tout sur Amazon. Et puis, est-ce qu'Amazon, ça t'empêche d'aller au cinéma ? Non. Est-ce que ça t'empêche d'aller au théâtre ? Non.
On
est-ce que ça t'empêche d'aller voir des concerts ?
Non,
n'importe
nous.
Quoi. Donc, tu n'as jamais eu autant accès à la culture et aux livres qu'aujourd'hui. Et puis, ton impact environnemental, excuse-moi, tu oublies quand même quelque chose, c'est que dans le business d'Amazon, ce qui génère de la pollution, et effectivement, ils sont en train de traiter le sujet, comme tous les gens qui font des data centers, c'est toute l'activité de cloud, de business services, etc. C'est pas du tout parce
qu'Amazon distribue des petits colis
partout que Amazon est un énorme pollueur. Donc non, je pense que tu te trompes. Par contre, sur le plan fiscal, je suis d'accord avec toi.
Allez.
Et puis voilà, mais Amazon, c'est pas des anges.
Vous êtes d'accord.
Mais c'est des bienfaiteurs quand même de l'humanité.
On va aller au 32-16 dans un instant. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Mais je crois que vous l'aurez compris, on parle d'Amazon, on vous pose la question. L'entreprise a-t-elle révolutionné le monde en bien ou en mal ? On attend vos messages, vos réactions sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Je préfère les débats Amazon que les débats vaccins, c'est plus joyeux, je trouve. On est avec Stéphane, qui nous appelle de Saint-Hilaire, qui est commercial. Bonjour Stéphane.
Tu dis ça parce que t'as déjà choisi ton
point. Bonjour.
Salut Stéphane. Toi, tu
bonjour
consommes.
Bonjour Madame Claudier, bonjour Madame Neumann.
Monsieur, moi c'est Neumann.
Je suis troublé, c'est la première fois.
Toi, tu consommes Amazon, ta fille a même travaillé.
Mais moi je suis un, je dis oui à 200% à Emmanuel. Ah, bien sûr qu'il y a, des défauts et des qualités, mais il y a quand même, pour moi, plus de qualités que de défauts. D'abord, ça a boosté le business sur Internet, ça c'est vrai. Ça crée des milliers d'emplois, souvent des emplois en plus. Bon, moi, ma fille, elle était étudiante, mais c'était pour justement faire un passage entre son moment d'étudiant suite au Covid et pour reprendre des études. Eh ben, c'est quand même un métier où il y a pas besoin de diplôme. Donc, hein, vous pouvez travailler chez Amazon et on vous forme. On est bien formé. Je vais vous dire, elle a fait 3 CDD. Donc, déjà, vous voyez, quand j'entends des gens, j'ai entendu sur vos antennes dire que c'était le bagne. Non, c'est pas le bagne. Elle a signé 3 fois. Et c'est une gamine qui mesure 1m50 et qui fait 53 kilos. Donc, vous voyez, c'est pas Hulk. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Donc c'est déjà c'est déjà bien. Deux, et ben moi je trouve que ça booste le business sur Internet. Ça permet à plein de petites PME et TPE de se développer. Parce que quand vous faites un site, vous êtes une TPE d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, faites un site sur Internet, vous avez vu que par très peu de personnes, ça vous coûte une fortune, Google, etc. Alors que là, vous êtes sur Internet, vous avez une vision mondiale en 2 minutes.
Donc, arguments d'Amazon, de dire qu'ils aident à la digitalisation des petits commerces.
Il y a plein de TPE et de PME en France, des fabricants, des petits fabricants, justement, qui sont dans la Lozère ou en Bretagne ou dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, où vous voulez.
Stéphane, juste pour éclairer ta lanterne, tu sais que le gouvernement français a voulu créer une taxe GAFA. T'as entendu parler de ça, j'imagine.
Qu'a fait
Amazon instantanément? Ils ont augmenté 3% la commission qu'ils prélèvent sur les 10 000 PME clientes d'Amazon. Donc immédiatement, la taxe qui était censée faire payer Amazon a été payée en réalité grâce à Amazon par les PME qui sont soi-disant clientes d'Amazon. Tu parles d'une relation équilibrée entre clients et fournisseurs, c'est top. Top.
Monsieur Neumann, c'est qu'il voit, toujours la bouteille moitié vide.
Pour ça, je raisonne sur des faits.
C'est pas vrai, parce que quand tu es, imagine-toi que tu es une PME, tu es une TPE, tu fabriques des couteaux à tiers. Tu as des dizaines de commandes sur Internet qui viennent via Amazon, mais tu récupères les données de ces clients-là. Donc quelque part après derrière ils peuvent recommander en direct. Si t'es un peu intelligent, tu les utilises. T'as l'adresse.
Et t'es au courant qu'Amazon produit ensuite les mêmes produits pour les commercialiser sous sa marque.
Ouais, alors pour ça ils ont été condamnés pour ça.
Ah oui, je sais.
Quand tu es un je sais pas moi.
Non mais vous faites comme si Amazon c'était les grands philanthropes de la.
Non, c'est toi qui te trompes.
Made in France. Quand tu l'achètes du Made in France, tu peux pas l'acheter. C'est pas une copie d'Amazon que tu veux. Dans ces cas-là, ça serait trop facile. Dans ces cas-là, on peut faire des copies de Louis Vuitton. Non, quand t'es chinois, tu vas acheter un vrai Louis Vuitton. Tu veux pas acheter une copie, ça a aucun intérêt. Quand t'es millionnaire ou t'as réussi ta vie en Chine, c'est pour si tu veux te payer un blouson Chanel ou un sac Louis Vuitton, tu veux le vrai, tu veux pas le faux.
Là, tu l'achètes rarement sur Amazon.
Non, mais on est d'accord. Donc là, c'est bien que quand tu utilises Amazon, quand tu es une TPE, que tu fabriques des sacs, des petits sacs, ou des couteaux ou n'importe quoi, ou des petits produits, ou de la porcelaine, etc. Pour moi, c'est plus facile. C'est une source de développement. Je dis pas que c'est parfait. Je dis pas qu'Amazon, il pollue pas.
Alors Stéphane, on va rester dans l'Essonne. On est avec Emmanuel, qui est pas très loin de chez toi, qui est à Dourdan, qui est cadre commercial. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Toi, Amazon, tu es contre?
Oui, je suis contre. Enfin, il faut que tout le monde vive. Mais à un moment donné, ce modèle-là, c'est plutôt un modèle de société qu'il y a derrière pour moi. Amazon, c'est une consommation facile, bout des doigts dans le canapé, on prend ce qu'on veut, on sait pas qui fabrique, qui fait quoi, enfin on peut peut-être se renseigner quand même, mais voilà, je trouve que ça pousse encore une fois de plus le monde de la conso, je suis pas un mec qui vit retranché avec ses plottes de laine à tricoter ses chaussettes, mais à un moment donné, voilà, où on va, quel monde on veut, on est en plein dans ces débats-là, dans ce côté un petit peu schizophrène aussi de notre société là, qui veut un peu de tout et rien en même temps, qui veut des hausses de salaire mais qui veut pas travailler, qui veut plein de choses quoi. Hein, donc effectivement, moi je trouve que ce système là de digitalisation du business, etc. derrière, ça va nous perdre, ça va simplement amplifier les phénomènes d'intelligence artificielle et autres. Alors
Okay. Mais là, c'est tout modèle des... Internet, en fait, que tu récuses, quoi.
Ouais, mais parce qu'Amazon, d'un autre côté, on va dire que c'est un des porte-parole du truc, quoi. Hein, bon, voilà.
C'est le plus puissant, c'est la première entreprise du monde, donc.
Voilà, donc après, on va courir derrière ce modèle-là. Hein, ça donne le pas, quoi. Après, effectivement, récuser complètement Internet, non, j'en suis pas à ce point-là, mais.
Non mais c'est le modèle de société, mais tu as raison, ça interroge
le modèle de société, c'est exactement le même quand tu vas dans un hypermarché et que on fait tout pour que tu dépenses. C'est-à-dire que on met tous les trucs dont tu as absolument besoin le plus loin possible au fond du magasin. C'est-à-dire qu'en gros, on va te mettre l'eau minérale, le papier toilette et tout ça tout au fond du magasin pour que tu traverses tous les rayons et que tu multiplies les occasions d'acheter quelque chose. Enfin, tout ton circuit est organisé dans la grande distribution pour que tu dépenses le plus possible. Bah là, tu as un peu la même philosophie mais sur Internet.
Ouais, ben excuse-moi, je vais te mettre un petit commentaire là-dessus. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je pourrais être...
Bah t'es un expert.
Mais non, là-dessus, déjà, il y a une vingtaine d'années, j'écrivais sur une petite dissert sur le sujet, en disant, c'est bien la grande distrib, hein, mais on est tous en train de se couper la branche sur laquelle on est assis, quoi. Hein. Et ça, je l'ai écrit il y a 20 ans, d'accord. Donc, à un moment donné, moi, je ne cautionne pas plus le modèle de la grande distrib.
T'es pas très conso, quoi.
Non, c'est pas que je suis pas très conso, c'est qu'il y a des moyens différents de consommer, quoi. Donc, à un moment donné, le problème, c'est la régulation là-dedans. Et un Amazon, il est trop puissant aujourd'hui et les moyens pour l'utiliser sont trop simples pour que maintenant on revienne en arrière et c'est bien dommage. Mais après, c'est une conscience citoyenne ou autre qui pourra faire un peu la différence. Moi, Amazon, j'y vais pas. Je crois que ma femme a dû y aller une fois parce que c'était pour le bouquin d'un gamin. Nous, on essaye d'aller à la librairie en face, de le commander et le livre arrive 40 heures.
Eh ben, on sera
après.
Justement avec un libraire dans un instant, patron de la librairie L'Armitière, c'est à Rouen, ancien président du syndicat de la librairie française. C'est Mathieu de Montchalin qui sera avec nous dans un instant. Un grand merci à Stéphane et Emmanuel d'être venus discuter avec nous dans Neumann le Chypre. On vous attend, vous, au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann le Chypre.
Midi 15h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre, pardon, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC. Le patron d'Amazon quitte son poste aujourd'hui. Son entreprise a révolutionné le monde. Personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que c'est en bien ou en mal pour Neumann le Chypre? En bien, elle a changé la vie de millions de consommateurs. Pour Laurent Neumann, en mal, elle a détruit les commerces de proximité et fragilisé l'économie de la culture. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 67% à trouver qu'Amazon a révolutionné le monde en bien. Vous êtes plutôt de l'avis d'Emmanuel Le Chypre, peut-être beaucoup d'utilisateurs qui votent.
Incroyable.
Et on est justement avec un membre de l'économie de la culture, c'est Mathieu de Montchalin, patron de la librairie L'Armitière à Rouen. Bonjour, vous êtes l'ancien président du syndicat de la librairie française. Est-ce que c'est l'arrivée d'Amazon qui vraiment marque d'une pierre blanche les difficultés des libraires?
Bonjour.
Bonjour.
Je pense d'abord qu'il faut séparer deux choses. L'arrivée d'Internet qui révolutionne tous les secteurs et donc le secteur de la vente de livres, du comportement d'Amazon qui, c'est vrai, a été le précurseur et celui qui a inventé beaucoup de choses, mais aussi celui qui casse les règles et celui qui agit un peu comme un cow-boy et qui, en cela, est destructeur. L'arrivée de l'Internet, c'est quelque chose de fondamental et aujourd'hui, plus aucun consommateur, moi le premier, n'envisage de ne pas avoir accès à un site pour se renseigner, pour connaître la disponibilité, le prix et peut-être même pour commander un certain nombre de produits, donc évidemment des biens culturels et évidemment des livres qui sont en plus assez faciles à envoyer par la poste.
Est-ce que vous arrivez à mesurer sur le secteur du livre l'impact direct?
Oui, on considère que c'est à peu près 15 à 20% du marché du livre. Mais ça n'est que 15 à 20%. Et les libraires indépendants en France, on a le réseau le plus dense au monde, avec 3500 librairies indépendantes, pèsent encore, selon les segments, entre 40 et 45%, c'est-à-dire deux fois plus que la totalité du marché de vente sur Internet, et donc au moins deux fois plus qu'Amazon, qui est le leader sur les ventes de livres sur Internet, mais n'est pas le seul.
Mais Mathieu, pourquoi vous avez employé le terme de « cow-boy » Ça m'a fait sursauter. Pourquoi « cow-boy »
Eh bien, cow-boy, parce que, mais cow-boy, vous savez, dans les Dalton, et plutôt le Billy the Kid, c'est-à-dire, et pas Lucky Luke. Lucky Luke, il fait appliquer les règles et Amazon, il a essayé de faire exploser les règles. Il ne paye pas ses impôts en France. On le sait très bien. Quand il vous dit « je paye 400 millions d'euros d'impôts en France », il met dedans la TVA. Et la TVA, c'est le client qui la paye, c'est pas Amazon. Il ne paye pas d'impôts sur les bénéfices. Il a tendance à ne pas payer d'impôts locaux pour ses entrepôts parce qu'il essaye de négocier des exonérations. Il a du mal à rémunérer correctement ses salariés et il est souvent mis en défaut pour le droit syndical ou la façon dont il traite les gens qui travaillent chez lui. Bref, c'est un groupe qui dit, puisque j'innove, puisque je suis le leader mondial dans tous les domaines du commerce, puisque je deviens le plus grand groupe au monde et le premier employeur au monde, eh bien je peux dicter mes règles, je peux faire ce qu'il me plaît et je peux faire comme ça me plaît. C'est ça qui me gêne. C'est pas le fait qu'il soit sur Internet et c'est pas le fait que ça soit un concurrent.
Oui, mais Mathieu de Montchalin, à la limite, ok, Amazon paye un peu mieux ses salariés, Amazon paye un peu plus d'impôts, donc au final, Amazon fait un peu moins de profit. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça change dans le business, la concurrence? Voyez, ça sera toujours votre concurrent exactement de la même façon qu'aujourd'hui.
Oui, mais moi j'ai pas peur de la concurrence. Et vous savez, pendant le confinement, les Français se sont tournés très massivement vers les librairies. Amazon, ouais. J'ai lu les chiffres dans la presse aujourd'hui, aurait progressé de 38% pendant le confinement. Mais le marché du livre, il a aussi progressé fortement. Alors c'est vrai parce que les cinémas étaient fermés, parce que les salles de théâtre, les opéras et la possibilité de partir en vacances étaient rendues plus difficiles. Mais les Français, ils se sont tournés massivement vers le livre. Et les libraires indépendants, ils ont tenu leur rang. Nous, on n'a pas peur de la concurrence. Parce que, vous savez...
C'est quoi vos arguments, du coup? Vos arguments forts face à la concurrence?
On a deux arguments principaux. D'abord, il y a 70 000 nouveautés de livres par an en France. 200 par jour. Votre problème, c'est pas d'acheter un livre, c'est d'acheter le roman, le polar qui va vous plaire ce week-end ou pendant la semaine de vacances. Mmh. Et pour ça, vous avez besoin qu'on vous guide parmi ces 70 000 nouveautés. Quand vous allez sur la première page consacrée aux livres d'Amazon, combien on vous présente de titres? 10, 20, 30? Allez, 30 maximum. Quand vous rentrez dans une librairie, vous avez des tables avec des dizaines et des dizaines de romans, avec des petits mots du libraire qui vous dit si vous avez aimé ça, essayez ça, vous verrez, ça vous plaira. Venez en parler avec moi. C'est ça que les gens veulent. Et c'est ça que nos clients trouvent chez nous et qu'ils ne trouvent pas sur les sites. Quand vous cherchez un livre sur Amazon, c'est facile. Quand vous cherchez une idée de lecture sur Amazon, c'est beaucoup plus compliqué qu'en librairie.
Ouais, puis j'ai trouvé, Emmanuel, que tu avais dégagé quand même avec une facilité déconcertante l'argument sur les impôts. Je veux dire, c'est bien gentil. Amazon travaille en France, gagne de l'argent en France. Et encore une fois, Amazon gagne de l'argent, ça ne me dérange pas. Mais qu'ils en gagnent beaucoup, ça ne me dérange pas. Mais qu'ils ne participent pas aux dépenses de la collectivité. Laurent, pardon, jusqu'à preuve du contraire, les salariés d'Amazon en France, ils envoient leurs enfants à l'école et Amazon ne paye pas d'argent pour l'école. Et je suppose qu'Amazon, avec tous les camions qui amènent les biens à domicile, au domicile des gens, j'imagine que ces camions, ils prennent les routes que nous construisons. Et donc, ils ne participent pas au financement des routes.
Ce que je veux dire, Laurent,
attends,
c'est que...
C'est indéfendable.
Non, mais ce comportement-là est indéfendable. Mais ça, c'est le rôle des États de faire respecter. Encore une fois, Amazon, ce n'est pas, les bienfaiteurs de l'humanité. Ils veulent faire le plus de profit possible. Et qu'on les contraigne à en faire dans des conditions de concurrence saine. Ce que je veux te dire, c'est que, OK, tu fais payer plus d'impôts à Amazon, mais le business d'Amazon reste le même. Ce que je veux dire, c'est que pour le libraire, la démarche, elle est exactement la même. Et moi, je suis heureux d'avoir avec Mathieu de Montchalin un libraire qui nous montre que la concurrence
tu penses que quand on dit du mal d'Amazon on est contre la concurrence, mais on n'est pas contre la concurrence, on est contre la concurrence déloyale. Ne pas payer d'impôts, c'est une concurrence déloyale. Laurent, voilà, il faut juste dire le mot.
Je t'explique que sur le plan du business ça ne changerait strictement rien.
Tu ne réponds pas, mais tu me parles concurrence et je suis pour la concurrence.
Et ben réglemente un peu plus Amazon, fait leur payer plus d'impôts,
et bien,
leur business model restera le même. Voilà.
Mathieu de Montchalin.
Oui, vous savez, monsieur, si vous regardez toutes les grandes compagnies américaines qui se sont développées depuis le début du XXe siècle, que ce soit dans le pétrole, dans l'automobile, dans l'électricité, dans le téléphone. Il y a toujours un moment où on a considéré qu'elles étaient trop grosses,
oui,
et où finalement elles innovaient peut-être.
Absolument.
Elles créaient de la concurrence au début, oui, et au bout d'un moment, elles avalaient les concurrents et supprimaient de la concurrence, et donc devenaient monopolistiques. Et on a toujours cassé ces monopoles. Aux États-Unis, le pays du libre-échange par principe, on a toujours cassé le monopole d'ATT, mais même pour les studios de cinéma, tout ça, il y a toujours un moment où vous atteignez une taille où l'avantage que vous promettez aux consommateurs devient en fait un piège et devient un consommateur, et où vous devenez celui qui profite de la situation. En France, on a 3500 libraires. Tout va bien. Les libraires pèsent encore deux fois plus qu'Amazon. On peut se dire, d'abord, collectivement, on n'a pas si mal résisté. On peut se dire que c'est grâce au prix unique du livre qui fait que vous achetiez votre livre sur Amazon ou que vous l'achetiez dans ma librairie et vous le payez exactement le même prix. On peut aussi se dire que c'est parce que, en France, justement, on a un peu plus de régulation que les autres. Je vais vous donner un exemple. La Grande-Bretagne. Il y a à peu près 15 ans, il y avait autour de 2000 librairies indépendantes en Grande-Bretagne qui n'appartenaient pas à des chaînes. Est-ce que vous savez combien il en reste aujourd'hui pour toute la Grande-Bretagne ?
Allez, 162.
Combien ?
162.
Ah oui.
Et ça, parce qu'aujourd'hui, Amazon pèse 55% du marché. Parce que sur le numérique, en Grande-Bretagne, Amazon pèse 90% du marché. Alors vous me direz, oui, mais c'est la concurrence, c'est parce qu'il n'y a pas la loi langue, c'est normal, Amazon a ratiboisé ses concurrents. Très bien. Et est-ce que le livre est moins cher en Grande-Bretagne ? Eh bien non. Si vous voulez acheter un nouveau Harry Potter ou un nouveau roman qui sort en grand format, en France, ça coûte autour de 20 euros. Si vous traduisez en euros le prix de vente, toute remise confondue qu'Amazon vous promet, vous êtes entre 24 et 26 euros. Donc en fait, la concurrence, c'est très bien quand elle est réelle, pas quand elle est affichée comme un argument marketing. Et il y a un autre élément qui reste à prouver, c'est que aujourd'hui, Amazon finance ses déficits avec la bourse. C'est-à-dire qu'il finance son développement. Alors ok, depuis quelques années, il fait un tout petit peu de bénéfice. Et ce bénéfice, d'ailleurs, il est fait en grande partie avec les services informatiques, pas avec la vente de biens. Mais moi, sur le livre, je prétends...
Le fameux cloud dont on parlait tout à l'heure.
Oui, voilà. Et je prétends que sur le livre, Amazon perd de l'argent. Je prétends que quand vous commandez un livre de poche sur Amazon et qu'on vous facture un centime les frais de port, même si Amazon est le plus gros acheteur de frais de port en France, qu'il est finalement le premier client de la Poste et probablement demain...
C'est un produit d'appel.
Voilà. Eh bien, c'est un produit d'appel. Et aujourd'hui, Amazon perd de l'argent, peut-être pas chaque fois qu'il vend un livre, mais en tout cas dans un grand nombre de cas où il vend un livre.
En tout cas, Mathieu de Montchalin, vous avez très très bien étudié la concurrence. Hein. Vous êtes très 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 au point. C'est peut-être ça qui permet de pouvoir lutter au mieux.
Quand vous dites ça, Mathieu de Montchalin, Emmanuel vous écoute avec attention, alors que moi, il dégage
tout
les arguments.
Mais moi,
j'adore les libraires. J'adore, et notamment ce que vous avez dit, Mathieu de Montchalin, le fameux petit mot sur chaque livre, etc.
Et vous avez aimé ça,
prenez ça. Mais bien sûr, mais ça montre bien qu'il y a que là, la concurrence est vertueuse et que tu peux avoir une offre qui te satisfait chez ton libraire.
Ouais, mais
bien
tout évidemment. Mais l'exemple bien britannique évidemment. où tout à coup Amazon occupe 90% du marché, c'est mais le contraire de la
je
concurrence.
Je pense qu'on n'est peut-être pas très loin du moment que décrivait Mathieu de Montchalin, et d'ailleurs la jeune femme qui a été nommée à la tête de la commission qui va étudier le démantèlement des GAFA, etc. aux États-Unis, c'est une véritable déclaration de guerre contre ces GAFA.
On aurait pu faire ça. Faut-il démanteler Amazon?
Mais on n'est peut-être pas très loin du moment, effectivement.
Oui, il faut le faire. Ah, mais donc tu serais d'accord pour démanteler Amazon, toi?
Effectivement, mais oui, peut-être.
Ah. Alors,
pas autant. Je pense pas que
mais alors, en fait, t'es d'accord avec moi?
Non.
Je pense que le premier sujet, c'est pas Amazon, c'est Google. Le premier sujet, à mon avis, c'est Google. Mais Amazon, pourquoi pas?
Je note un débat pour demain. Faut-il démanteler les GAFA?
Notamment Amazon, entre les services aux entreprises et la partie vente en ligne, effectivement, il y a des grandes entreprises dans le passé qui ont été séparées en plusieurs morceaux.
Un débat qu'on ne pourra donc pas faire puisque vous êtes d'accord et qu'on ne fait pas les débats auxquels vous êtes d'accord. Merci beaucoup Mathieu de Montchalin d'avoir été avec nous, patron de la librairie L'Armitière, c'est à Rouen. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Guilin qui nous appelle depuis Béthune, qui est cadre dans le commerce. Bonjour Guilin.
Oui, bonjour.
Toi, tu es plutôt côté Emmanuel Le Chypre, tu consommes parfois Amazon. Hein.
Ouais, je suis très content de vous avoir parce que justement, ça fait 4 fois que je vous rappelle qu'on est à l'arrêt, on arrête pas d'être coupé, donc je suis en pleine campagne.
On t'entend bien là,
vas-y.
Amazon, heureusement qu'il est là, dans ces petites campagnes là, parce que y a rien. Je viens de traverser un petit village, donc je pense que quand ils veulent commander quelque chose, ils sont bien contents d'avoir Amazon. Donc, moi, je suis pas un dingue d'Amazon, j'ai déjà acheté chez eux. Je suis à Béthune, donc je suis pas loin d'Amiens. Ils ont construit un nouveau centre là-bas sur, sur Amiens. Ils ont embauché énormément de personnes. On tape toujours sur celui qui a la réussite en France. Hein. Bezos, pour moi, c'est un grand précurseur. C'est un monsieur qui a osé. Donc, on est toujours en train de taper sur Amazon, mais il est là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'en servir, notamment les petits artisans. Il y a certains artisans. Moi, j'ai déjà acheté du miel, je sais tout où c'était, mais via Amazon. Hein. Du petit miel français, je l'ai déjà acheté via Amazon. Donc, il y en a pas mal qui peuvent travailler avec eux. Donc, toujours se plaindre d'Amazon, c'est assez facile. Et tout à l'heure, j'entendais que c'était Amazon qui avait tué le petit commerce de proximité. Pour moi, c'est plus les grands et les hyper surfaces qui ont tué les premiers, les petits commerçants qu'Amazon. Parce que les hyper surfaces, Amazon, il est réimplanté depuis je sais pas combien de temps, peut-être il y a une quinzaine d'années maintenant, on pourrait peut-être mieux le dire que moi, mais je vais dire, les hyper surfaces, c'est eux qui ont plombé vraiment le petit commerce. Donc Amazon, bah, il est là. Celui qui veut commander chez Amazon, il le fait, il en est content, tant mieux pour lui. Celui pour qui ça gêne, bah, il commande pas. Mais il est là et heureusement qu'il est là. Donc, bravo.
Te rassure, Laurent aime aussi critiquer les hypermarchés et les supermarchés.
Ah bah tu me l'as enlevé de la bouche, dis donc.
Mais
bah oui,
parce
que si tu nous écoutes, Guilin, je suis le premier à déplorer que depuis 40 ans, on ait tout misé sur la grande distribution. Et puis maintenant que les centres-villes sont dépeuplés, qu'il n'y a plus de boutiques, etc., on dit bah qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah, il nous reste Amazon. Voilà, il nous reste Amazon. Bonjour la vie sociale. Hein. Bonjour la vie sociale.
Merci Guilin d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre depuis Béthune. Guilin qui était cadre dans le commerce. On va continuer à parler ensemble d'Amazon. Est-ce que Amazon a révolutionné le monde en bien ou en mal ?
Il y a Anthony qui nous attend.
Oui.
On va le prendre Anthony, j'espère.
Bah c'est un peu le but de l'émission.
Il est d'accord avec moi.
Ah oui, c'est ça,
tu attends
quelqu'un qui est d'accord. Non mais je ne prends que des gens qui sont pas d'accord avec toi parce que je suis contre toi en fait, voilà. Dans la vie. Bah, bien sûr.
En tout cas sur Amazon, ça ne fait aucun doute.
C'est pas complètement fou. Allez, on vous attend au 32-16 sur RMC, à tout de suite.
RMC midi 15h.
Neumann le Chypre.
RMC midi 15h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre. Pardon, toujours le micro en retard. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC. Le patron d'Amazon quitte son poste aujourd'hui. Son entreprise a révolutionné le monde. Mais est-ce que c'est en bien ou en mal pour Emmanuel Le Chypre? En bien, elle a changé la vie de millions de consommateurs pour Laurent Neumann. C'est en mal, elle a détruit les commerces de proximité et fragilisé toute l'économie de la culture. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et voici donc l'auditeur le plus attendu par Laurent Neumann, c'est Anthony, puisque Anthony est d'accord avec Laurent Neumann. Salut Anthony.
Anthony, je t'attendais avec impatience.
Salut à tous, salut Laurent.
Salut.
Toi, tu travailles dans le digital, Anthony, et t'aimes pas Amazon?
Moi, Amazon, je pense que c'est potentiellement quelque chose qui peut faire très peur. Et juste pour revenir sur les arguments de Laurent, je suis pas d'accord sur tout, parce que je pense pas qu'ils aient flingué la culture, je pense qu'ils flinguent en fait toute l'économie, parce que la culture, les jeunes délaissent de la culture, c'est depuis en fait Internet, depuis les jeux vidéo, depuis etc. Nos parents, ils lisaient des bouquins, nos enfants à nous, ils en lisent plus, et c'est pas Amazon qui a fait ça en fait,
c'est
juste l'évolution en fait. Bref, et sans compter Netflix, etc., voilà, bref. Amazon, moi je trouve que ça peut être un peu flippant parce que déjà j'ai rien contre Jeff Bezos, j'estime que c'est un mec qui a très bien travaillé, s'il en est là où il est, c'est qu'il le mérite. Voilà, s'il part c'est son choix, peu importe. Sauf qu'Amazon, il commence à être omniprésent partout et bientôt on va plus pouvoir s'en passer. À l'image de par exemple Google, comme tout à l'heure Emmanuel vous a parlé sur Google. Google dans le monde d'internet, par exemple du développement, de la publicité, si tu as une petite entreprise, eh ben, certes, Google, il va te placer, sauf qu'il va te placer tout en bas. Et si tu veux remonter, faut payer un max. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autres supports que Google. Ils ont un quasi monopole. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'en économie, les monopoles, c'était interdit. Sauf que là, on laisse faire, pas de problème. Et sur Amazon, le problème, c'est que c'est exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on sait pas, ils sont dans le cloud, on sait pas où ils seront demain. Et quand une petite entreprise, elle est digitalisée sur Amazon, faut pas oublier qu'en fait, elle est tout en bas dans le flux des produits exactement similaires. Et qu'une petite entreprise qui est contente d'être digitalisée parce qu'en fait son centre-ville il est un peu délaissé, ben en vrai sera toujours plus cher que l'entreprise qui elle n'a pas de.
Ouais, tu veux dire au fond, attends, c'est intéressant. Tu veux dire donc que Google ce serait la reconstitution du communisme mais sur une base privatisée.
Attends, tu m'as perdu là.
Bah, si, on a reconstitué sur une base privatisée les monopoles des pays communistes. Bah si, c'est exactement
ça. Mais ça va au-delà de ça, Laurent. Et là, je vais peut-être aller en partie dans ton sens. C'est qu'on voit bien que, alors, le jeu est totalement fascinant d'ailleurs, parce que quand on regarde ce qu'on met sous le vocable GAFAM, c'est-à-dire en gros Google, Amazon, Facebook, Apple. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont à la fois extrêmement concurrents sur certains points, mais qu'à la fois ils sont extrêmement complémentaires, c'est-à-dire que les uns ne peuvent pas se passer des autres. Facebook a forcément besoin des Apple et Google aussi, etc. Et en même temps, ils aspirent tous à la même chose, en étant à la fois concurrents et à la fois complémentaires. Ils veulent tous devenir les systèmes d'exploitation de nos vies. Et là, vous avez raison. C'est ça le stade ultime du soviétisme privatisé du 21e siècle. C'est qu'ils veulent c'est pas seulement la propriété public, c'est qu'ils veulent dans nos vies tout régenter, c'est-à-dire que non seulement nous vendre, mais aussi demain vous verrez que Amazon fait déjà d'ailleurs des prestations médicales, qu'ils vont tout savoir de nous, qu'on n'aura même plus besoin de monnaie parce qu'on passera directement par eux. Donc c'est ça leur but. C'est ça leur but, c'est de devenir les systèmes d'exploitation de nos vies. Et là, c'est vrai.
Quand on fera le débat, t'expliqueras que ça a changé la vie en bien.
C'est très bizarre ce qui se passe là.
Il était d'accord, à un moment donné, c'est dangereux.
Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas
contre. Anthony Emmanuel est un type intelligent, il est souvent de mon avis.
Mais c'est pas ça, Laurent. La réalité, c'est que tu pourrais garder les bienfaits de l'innovation proposée par tous ces GAFA avec une réaction sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire la façon dont ils écrasent
la
démocratie. Si c'est moi l'économie belle des champs, toi, t'es l'économie bisounours, parce que c'est pas du tout ce que cherchent les GAFA, en l'occurrence.
Ah, mais bien évidemment qu'eux ne le cherchent pas, mais la réalité de l'histoire, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce moment arrive.
Voilà.
Et ça, c'est
donc, à part démanteler, il n'y a pas d'autre solution pour toi.
Mais ça n'empêche que les services.
Mais si on démantèle, c'est bien qu'ils n'ont pas fait que du bien. Attendez, raisonnez deux minutes. Vous êtes en train de dire que Amazon n'a fait que du bien. Et vous dites en même temps, on est arrivé au moment où il va falloir le démanteler. Mais s'il faut le démanteler, c'est que ça ne fait pas que du bien, les gars.
Amazon, dans ce qu'il propose, fait du bien. Mais on se dit que s'il y avait deux, trois entreprises qu'il propose, ce serait sans doute mieux.
Voilà.
Merci Anthony de nous avoir lancé dans un débat philosophique.
Je suis content alors que tu sois de mon avis finalement, ça me fait plaisir.
Attends, moi j'ai rien dit.
Mais tu l'as dit très fort.
Non, je l'ai pensé très fort, c'est ça, non, tu entends dans les pensées. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. On va prendre Sébastien, il nous appelle de Vieux-Vic en Eure-et-Loire. Toi Sébastien, t'es ouvrier dans le bâtiment et tu commandes 100% quasiment sur Amazon.
Bonjour Laure, bonjour à tous.
Salut Sébastien, si tu pouvais acheter ta baguette, tu l'achèterais sur Amazon?
Franchement ouais.
Tellement t'es content de quoi?
Si je pouvais acheter ma baguette sur Amazon, je le ferais, pour la simple et bonne raison que moi je suis en campagne. Alors je suis pas tout à fait à Vieux-Vic, hein. Je suis dans un petit patelin de 160 habitants.
Ouais.
Et si j'avais pas Amazon, demain je pourrais pas avoir de chaussures parce que je fais une taille à la con. Désolé pour les expressions un peu triviales, mais voilà, c'est ça. Les livres, je les achète en librairie, mais je suis obligé de venir en région parisienne.
Ouais.
Parce que dans mes campagnes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y en a une, mais elle est ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Moi, je bosse dans le bâtiment sur Paris tous les jours. Je suis pas rentré quand elle est en ouverture, quoi.
Ouais.
Donc, tout ce qui n'est pas alimentaire quasiment, ou peut-être même l'alimentaire, tu l'achètes sur Amazon?
L'alimentaire, non, parce que c'est vrai qu'on a nos petites habitudes chez nos petits commerçants. Mais tout le reste, ouais, ça vient d'Amazon.
Mais Sébastien, tu as remarqué, je ne sais pas si tu écoutes notre débat depuis tout à l'heure, je ne conteste pas l'utilité d'Amazon. Amazon est extrêmement utile. Et pour toi, Sébastien, c'est même indispensable, si je comprends bien. Mais c'est pas ça que je conteste. Ce que je conteste, c'est la manière de fonctionner. Ils sont en train de faire péter toutes les règles. Toutes les règles, pas seulement d'ailleurs le fait de pas payer des impôts, mais ils sont en train d'imposer un modèle dont finalement on ne pourra plus se passer. Et lorsque ce jour-là sera arrivé, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà. C'est tout ce que j'explique.
Est-ce qu'on veut réellement s'en passer d'Amazon? Est-ce qu'on veut réellement s'en passer? Parce que sincèrement, certes, ils ont un modèle économique bien à eux, mais je te donne l'exemple. Là, je suis sur mon fil de commande Amazon. Je veux dire, évidemment, tout ce que j'aurais pu acheter, tout ce que j'ai acheté chez Amazon, j'aurais pu l'acheter ailleurs. Mais, par exemple, là, sur mon fil, le dernier truc que j'ai commandé, alors c'est un peu terre à terre, hein, mais c'est une pièce pour mon tracteur tondeuse.
Mmh.
Qui était en panne.
Ouais, même ça,
là, c'est hyper pratique.
J'ai été voir mon petit revendeur. Il m'a dit, oh là là, mais cette pièce-là, c'est 15 jours, 3 semaines d'attente et ça coûte 90 euros. J'ai été voir sur Amazon, 25 euros. Je l'ai commandé dimanche à 23h26 et je l'ai eu lundi à 15h06. Oh
là là. Ouais, là, tu, forcément, là, tu peux pas lutter. Moi,
tu peux pas lutter, ça
raison. Quand tu me dis le modèle économique, il est nul à chier, il fait perdre des emplois. Et moi, en tant que ouvrier, en tant que personne lambda, je suis un petit, moi, je suis qu'un tout petit dans la société. Hein. Mm. Moi, quand tu me dis ça, tu me dis que tu vas économiser.
Bah là, c'est clair, le choix est évident.
Tu vas économiser 70 euros et la pièce, tu l'as le lendemain.
Et tu l'as le lendemain et tu gaspilles pas d'essence à aller en permanence à 20 km faire tes courses.
Ah, bah oui, parce que moi, ils m'ont installé
dans les zones commerciales.
Ils m'ont installé un petit hub, là, tu sais, les caméras automatiques.
Ah oui.
Un relais, ouais.
Bah, tu vois, moi, Sébastien, Amazon ne m'a été utile. Je crois d'ailleurs que ça doit être la seule fois que j'ai dû acheter deux fois sur Amazon. Et les deux fois, c'était pendant le confinement. Parce que j'avais absolument besoin de choses dans des magasins qui étaient fermés.
Mais t'habites à Paris, ça n'a rien à voir.
C'est vrai. Mais pourtant, je suis sûr que c'est à Paris où on utilise plus Amazon encore que chez Sébastien.
Pourquoi ?
Bah, parce que c'est un mode de fonctionnement. C'est tellement simple. Tu cliques et on te livre. Donc, à mon avis, pour Sébastien, c'est indispensable. Mmh. Mais pour d'autres, dans les centres-villes, c'est un mode de vie.
Merci beaucoup Sébastien d'être venu débattre avec nous dans No Man Le Chip. Quel est le résultat des votes, Lisa Marie ?
Vous êtes finalement 70% à trouver qu'Amazon a révolutionné le monde en bien.
C'est clair. En attendant de changer d'avis.
Bien sûr, et d'être d'accord enfin avec Laurent Neumann, qui est du côté du bien.
Non, t'as déjà commencé.
Si t'as deux ou trois entreprises qui font l'affaire, ça sera très bien aussi. Et Amazon aura innové beaucoup. Et d'ailleurs, Jeff Bezos dit que son entreprise n'est pas du tout immortelle. Lui, il pense que dans quelques années, son entreprise n'existera plus. Donc...
Allez, on va continuer à parler d'Internet avec Lisa Marie.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, le mois dernier, tu nous avais raconté l'histoire d'une œuvre invisible qui s'était vendue aux enchères. Il y a un rebondissement.
Oui, rappelez-vous, une œuvre totalement invisible, immatérielle, s'était vendue près de 15 000 euros aux enchères. Une œuvre qui n'est ni visible, ni palpable. Et ça vous avait fait beaucoup réagir autour de la table. Laurent, tu avais trouvé que c'était du génie de l'escroquerie. Manu, pour toi, c'était une provocation, une métaphore de l'absurdité. Et sur les réseaux sociaux, ça vous avait indigné, mais surtout fait beaucoup rire. Eh bien, figurez-vous que cette œuvre invisible fait aujourd'hui l'objet d'une accusation de plagiat. Et oui, un autre artiste accuse Salvatore Garo, celui qui a réalisé, si on peut dire, cette sculpture invisible, de l'avoir copiée. Alors celui qui l'accuse de plagiat s'appelle Max Miller, c'est un artiste américain, et il déclare que c'est lui qui avait eu l'idée d'une œuvre inexistante. Il envisage des poursuites puisque, selon lui, il aurait partagé son concept d'œuvre invisible en 2016 lors de l'exposition d'une de ses sculptures immatérielles intitulée « Rien ». Voilà, tout simplement. Et il a donc été copié. Il demande à être crédité pour avoir été plagié. Il veut sa part du gâteau. En tout cas, ça fait parler de lui. Et cette histoire incroyable, absurde d'art invisible n'est peut-être pas encore finie.
Ça va faire le bonheur des avocats, ça. Comment défendre la propriété intellectuelle d'une œuvre que tu ne vois pas. Ça, c'est génial.
Surtout que moi aussi, j'avais eu cette idée. Hein. Donc je vais pouvoir demander.
Tu peux l'accuser de plagiat,
qui peut dire, moi aussi, je voulais faire rien.
Preuves.
Je savais que tu étais un génie de l'escroquerie. Peut-être que tu peux toucher un peu d'argent.
N'importe
sur ce
qui peut te dire j'avais une idée. Parce que ça marche avec
tout. On a quand même un peu, c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. C'est ça qui est.
Mais la preuve qu'il a, ce Max Miller, c'est qu'il avait fait il avait exposé lui aussi une œuvre avec rien, une œuvre où il n'y avait absolument rien sur un mur, juste une étiquette avec son nom et le nom de son œuvre qui s'intitulait Rien.
Non, mais on se dit...
est tous des artistes, au final.
Ça me laisse sans voix, moi.
Ouais, les limites de l'absurde... Mais je pense que cette affaire, en elle-même, est une œuvre d'art, en fait.
Ouais, absolument.
C'est-à-dire que tout est
signé... Il y a quand même quelqu'un qui a payé. Hein.
Mais c'est ça.
C'est l'escroquerie élevée au rang d'œuvre d'art.
Ah ouais, voilà. Exactement.
Mais faudrait quand même joindre celui qui a payé, quoi, pour savoir comment va-t-il, quelles sont ses raisons.
Et je vous rappelle que l'œuvre, elle avait été estimée 6 000 euros et il y a des acheteurs qui se sont battus. Elle a finalement été vendue 15 000 euros. Donc en fait, il n'y avait pas une seule personne qui voulait l'acheter, mais plusieurs.
Il y a des gens qui ont trop de sous, clairement.
Bah, là, clairement, oui.
Et est-ce qu'on a demandé à ce monsieur ou à cette dame si ça allait bien chez lui ou pas?
Mais non, je te dis, c'est ça. Il faut appeler cette personne pour savoir si elle va bien.
Ben oui. Est-ce que c'est beau?
Cette personne, elle a du scotch collé au sol avec, et puis elle a un papier qui atteste qu'elle a bien acheté, qu'elle a bien dépensé 15 000 euros pour rien.
Eh bien, voilà.
Tout va bien.
C'est bien.
Merci beaucoup.
Non, mais on attend le prochain épisode.
Non, mais je suppose que c'est le progrès.
Oh, mais tu m'énerves, j'ai envie de te jeter mon casque. Non, mais franchement, quoi, c'est ça,
Amazon,
c'est le progrès.
C'est la vie sous Amazon.
Non, mais tu m'énerves à finir par dire non, mais finalement, c'est le progrès. C'était mieux avant, mais quel rapport avec le progrès.
C'est contemporain, dont une grosse partie du business est quand même du foutage de gueule.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Mais bien sûr que si.
Je suis pas d'accord avec ça.
Bien sûr que si.
C'était tellement mieux avant.
Il y a des gens qui font monter artificiellement les cotes. Enfin, c'est un marché manipulé en grande partie. C'est un marché pour les gogos.
Non, mais l'art contemporain, ça peut te déplaire, mais c'est de l'art.
Mais je dis pas le contraire.
Ah bah regarde ce crayon.
Je dis que la valeur,
c'est mon œuvre. Je te la vends 15 000 euros.
Je dis qu'il y a des gens qui manipulent ce marché pour faire croire à des gogos que il y a des œuvres d'art qui valent plus que d'autres. Et c'est franchement, il y a des choses assez hallucinantes.
Merci Elisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr.
Je suis content de m'être levé ce matin, tu vois.
Dans un instant, on va parler des vacances. Reste avec nous, Laurent. Début des vacances d'été, premier week-end des grands départs ce week-end. Est-ce que vous êtes prudent ou plutôt insouciant face à cette nouvelle vague qui arrive potentiellement fin juillet? Comment allez-vous organiser vos vacances? Côté prudence, Emmanuel Le Chypre. Côté insouciance, Laurent Neumann. On vous attend au 32-16. On veut tout savoir de votre organisation. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.